voix est libre. Au FM 93, voici Luc Lavoie.
Juste dire à nos auditeurs que visiblement, ils n'ont pas été très conquis par Yves-François Blanchette qui vient de nous parler. Là, les commentaires sont plutôt désobligeants à l'endroit du Bloc québécois.
Vraiment, hein, ça, mais ça, j'ai entendu la fin de l'entrevue. Qu'est-ce que les gens n'ont pas aimé?
Un homme qui costise une femme une fois, deux fois et qui se fait dire non doit abandonner l'idée, sinon c'est du harcèlement. Bon, le Bloc québécois, dans mon cas, jamais plus. Pourquoi voter pour un parti qui sera jamais élu, juste un parti de braillards sans aucun pouvoir, etc. Je n'aime pas le ton victimaire et un peu agressif de M. Blanchette. Moi, je trouve qu'il se défend, là. Bon, en tout cas...
Ah, ben c'est un gars qui s'exprime bien, puis tout ça. Mais il véhicule ce que représente le Bloc québécois. Qu'est-ce que tu veux?
Luc, il y a des gens que j'ai entendus au cours des dernières heures nous dire que Notre-Dame... Pour eux, c'était les Aristochats. Hubert Lenoir, pour ne pas le nommer. Cochiante et Plamondon ont rendu célèbre la cathédrale Notre-Dame de Paris, selon certains autres chroniqueurs à LCN. Bon, toi, c'est quoi,
Victor Notre-Dame? Hugo est passé par là aussi. Louis XIV aussi est passé par là. Napoléon est passé par là.
Non, c'était rien.
Cochiante et Plamondon.
C'était rien avant Plamondon et Cochiante.
Ah, c'est quand même incroyable, hein? Quand tu penses à ce que c'était Notre-Dame, à ce que c'est Notre-Dame, c'est... Moi, j'y retournais toujours. D'abord, je suis un amant fini de Paris. Mm-hmm. J'y retourne toujours à Paris. Et quand je vais à Paris, je vais toujours à Notre-Dame. Il y a plusieurs raisons. D'abord, la majesté des lieux, mais aussi des choses aussi terre-à-terre que le fait que c'est le cœur de Paris. C'est en plein milieu de Paris. D'un côté, t'as l'île Saint-Louis, puis de l'autre côté, la rive gauche. En fait, t'es en plein là où ça se passe. Là, même que toutes les rues, tu savais ça, toutes les autoroutes de Paris ont un point de départ. C'est le parvis de Notre-Dame de Paris.
Ah,
il y a
oui,
comme
une
espèce
zéro.
De cercle. Ouais, le kilomètre zéro est en plein là, sur le parvis, en plein milieu. Toutes les routes convergent vers ça.
Nous autres, c'est devant l'Assemblée nationale, je pense, notre kilomètre zéro.
Moi, je pense que tu as raison, en
Quelque
effet.
Quelque chose de genre.
Alors, Notre-Dame de Paris, c'est la première... D'abord, c'est construit au Moyen-Âge. À une époque où, vraiment, l'État, comme on le conçoit maintenant, n'existe pas vraiment. Et c'est dès que ça a été terminé, Saint-Louis a réuni les premiers états généraux du Royaume de France. C'était la première fois qu'on concevait l'idée d'un pays autre qu'un rassemblement, une espèce de casse-tête de diverses ethnies.
Ah oui, donc c'est pas seulement une œuvre religieuse, c'est au départ une œuvre politique aussi.
C'était certainement une œuvre politique, parce que quand tu regardes l'histoire de Notre-Dame et de sa construction... Tu te rends compte que c'est toute la société parisienne, des plus bourgeois, on n'appelait pas ça des bourgeois à l'époque, mais disons des propriétaires terriens, des aristocrates, mais aussi tous les corps d'artisans, que ce soit des maçons, des ouvriers de toutes sortes, des artisans de la pierre, de la sculpture, des artistes. Tout le monde a participé à la construction de Notre-Dame de Paris. Et hier, tu vois, il y a une chose qui m'a allumé quand je regardais ces images absolument tragiques et qui me bouleversaient, c'est que je ne m'étais jamais arrêté à l'idée que Notre-Dame de Paris, c'est au départ une charpente totalement en bois de chêne, qui a été recouverte de pierre. Donc, c'est ça qui a fait que l'incendie a pris si vite. Mais ce qui est intéressant,
c'est que... Moi, j'étais sûr que ça allait résister, notamment parce que c'est en pierre.
C'est ça, mais la pierre reposait sur cette charpente de bois vieille de 850 ans. Et à l'époque, la construction, il y avait eu comme un scandale dans Paris. Il ne restait plus un chêne dans des kilomètres à la ronde. Tous les chênes avaient été coupés pour construire Notre-Dame de Paris. Alors, ce bois qui a brûlé hier, il y avait 850 ans. Et là, tu continues avec le temps qui avance, puis à un moment donné... Tu vois que les autorités politiques, le roi Soleil, Louis XIV, les restes de Louis XIV, c'était à Notre-Dame de Paris. Tout le monde s'est comme emparé de Notre-Dame de Paris. Jusqu'à Napoléon, qui s'est fait couronner, ou qui a lui-même déposé sa couronne, le sacre de Napoléon, devant le pape Pie le VII, parce qu'à l'école, il fallait pas dire Pie VII, hein, on disait Pie le VIIe. Il y avait Pie VI, puis il y avait Pie VIII, mais entre les deux, il y avait Pie le VIIe. Napoléon qui a été sacré là. On peut continuer, puis vraiment, une des scènes qui est les plus marquantes dans la vie contemporaine de Notre-Dame de Paris, parce que c'est un monument vivant, ça, c'est la libération de Paris, le 25 août 1944. De Gaulle descend les Champs-Élysées avec le général Leclerc, puis tous ceux qui avaient participé dans la résistance ou autrement à la libération de Paris, ils ont défilé. Et ils sont arrivés devant Notre-Dame de Paris. Et De Gaulle était le premier à entrer par la porte principale. Donc, il avançait sur le parvis. Et il y avait des tireurs cachés dans les tours en haut. Le mystère demeure entier. On ne sait pas si c'était des collabos ou si c'était des soldats allemands en panique. Ils ont tiré sur De Gaulle.
Ah ouais.
Ils l'ont raté de peu. Ils l'ont raté littéralement de quelques centimètres. Et De Gaulle, dans toute sa majesté, n'avait pas bronché. Il n'avait même pas tourné la tête pour voir quel bruit qu'il y avait autour de lui, alors que les gens qui assuraient sa sécurité autour de lui étaient énervés, se lançaient dans toutes les directions. De Gaulle a continué d'avancer jusqu'à l'intérieur, jusque vers l'hôtel de Notre-Dame de Paris pour le fameux Te Deum, qui était ce qu'on célébrait autrefois quand on célébrait un grand jour. Hein? On avait un Te Deum. Alors, Notre-Dame de Paris, c'est aussi... tu sais...
En fait, à chaque tranche d'histoire, Notre-Dame de Paris est là.
Et toujours là. Toujours là. Et toujours là à un niveau universel. Tu sais, c'est que Notre-Dame de Paris, il n'y a que deux édifices dans le monde qui m'ont fait l'effet que me faisait Notre-Dame de Paris. D'abord, Notre-Dame de Paris, et puis Sainte-Sophie à Istanbul. Et c'est un peu la même chose. Les deux étaient bien au-delà du temple religieux. Sainte-Sophie a d'abord été une église chrétienne,
oui.
Est ensuite devenue une mosquée et est aujourd'hui un musée. Sainte-Sophie a été construite à partir de l'an 525.
C'est incroyable.
Et t'arrives, il y a eu, puis la Turquie est située sur une zone de plaque tectonique instable et qui a donné beaucoup de tremblements de terre. Tout un jour ou l'autre, il ne reste pas grand-chose d'habitations de bois, de ce qui était Constantinople et tout. Mais Sainte-Sophie n'a jamais bronché. C'est jamais... Et quand tu entres dans Sainte-Sophie, puis Notre-Dame te donnait le même effet, t'as comme un frisson. Et tu sais, c'était une époque où les constructeurs de cathédrales avaient comme idée que plus tu t'élevais haut, plus ton esprit s'élevait.
Oui.
Et ça, c'était beaucoup dans la pensée religieuse de l'époque. Le but de la vie, c'est d'élever l'esprit. Alors, quand t'entrais là, t'avais ce sentiment, d'abord que t'étais petit, ce sentiment que poussière, tu es poussière, tu retourneras poussière. T'arrivais dans ça, tu disais, waouh, mais c'était incroyable. Et les trois fameuses rosaces, j'ai versé une larme quand je suis allé à Sainte-Sophie. À Notre-Dame, je suis plutôt resté figé. Quand t'arrivais devant la rosace, je pense que c'est celle qui était là au sud, là, c'était tellement grandiose de penser qu'une œuvre de verre, aussi raffinée, aussi sophistiquée dans ses couleurs, mais comment ils ont pu arriver à faire une chose pareille? Et là, tu vois, il est en train de s'organiser, ça va à une vitesse folle, une collecte de fonds mondiale.
Il paraît qu'on serait rendu à 1 milliard.
Oui, on serait déjà rendu à 1 milliard, oui, effectivement. Les grandes familles françaises, les Pinault, Arnault, ont déjà mis des centaines de millions sur la table. Et là, ça va être toute une œuvre à rebâtir. D'abord, Dieu soit loué. Les deux tours en avant sont toujours là. Mm-hmm. Et les murs, essentiellement, sont encore là. Tout ce qui était par-dessus est parti. Ils ont réussi à sauver beaucoup des œuvres d'art. Et ça, c'est remarquable que les pompiers français, je ne sais pas s'il y avait des plans en ce sens, mais avant même d'éteindre l'incendie, se sont garochés à l'intérieur pour aller chercher les plus grandes œuvres d'art, celles qui étaient irremplaçables.
Et ils ont réussi à ne pas arroser l'orgue.
Oui, c'est incroyable, on dit que les tuyaux sont noircis, mais que c'est encore intact.
On dit souvent que les pompiers de Paris sont les meilleurs pompiers au monde.
Oui, parce que là-bas, il y a une sorte d'admiration pour les sapeurs-pompiers. Quand il y a le grand défilé militaire du 14 juillet, les sapeurs-pompiers défilent à travers les autres grandes forces de sécurité de la France. Et alors là, on va les voir essayer de reconstruire Notre-Dame. N'oublions pas qu'en 1163, quand ils ont commencé la construction de Notre-Dame, et certains disent avec l'argent des Templiers, puis au moment des croisades, puis on peut y trouver toutes sortes d'interprétations négatives, Quand ils ont commencé à construire Notre-Dame de Paris, il n'y avait pas d'énergie au sens où on l'entend. Il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait que du feu, finalement, comme énergie. Et là, ils ont réussi à créer cette architecture absolument incroyable.
Avec des systèmes de leviers pour ramener chaque pierre au bon endroit après qu'elle ait été taillée au sol pour convenir parfaitement à l'endroit où on allait la hisser. Là, c'est...
Alors là, il va falloir trouver une façon de reproduire le génie du haut Moyen-Âge avec la technologie moderne. Je ne sais pas comment ils vont y parvenir, mais c'est clair que Macron, je l'ai trouvé extrêmement brillant hier, alors qu'il s'apprêtait à faire un discours à la nation pour répondre à la crise des Gilets jaunes une fois pour toutes. Il a annulé ça. Et quand je l'ai vu, il faut lui donner ce qui lui revient à Macron. Il y a un sens de la formule absolument extraordinaire. Il dit « C'est notre histoire qui brûle ». J'ai trouvé cette formule extraordinaire. C'est notre histoire. Et quand il dit notre histoire, moi, je le prends au sens de notre histoire occidentale.
C'est ça. C'est pas l'histoire des Français.
Non, c'est une histoire universelle. Enfin, c'est certainement une histoire de la chrétienté. La chrétienté est en nous tous en Occident.
Sur le plan politique, probablement que le mandat de Macron va se sauver là.
Il y a des bonnes chances parce que, en tout cas, ça va certainement l'aider parce qu'hier, là, d'abord, il n'y avait pas de texte écrit, il n'y avait certainement pas de télésouffleur. Quel talent de l'éloquence, comprends-tu, quand il a dit « nous rebâtirons ce temple », puis il a fait une pause, puis il a dit « nous rebâtirons Notre-Dame ». Écoute, comme un frisson, tu dis « écoute, là, c'est plus grand ». Écoute, j'entendais des gens ce matin, là, à la télé, qui disait « Oui, mais toutes les rénovations de toutes sortes de petites églises un peu partout en France vont souffrir. » Arrêtez-vous, là. C'est comme s'il y avait un tremblement de terre puis la pyramide de Gizeh s'effondrait. Ça, le Taj Mahal, la pyramide de Gizeh, ce sont parmi les points de repère de notre civilisation. Alors, moi, j'ai été bouleversé. J'étais là, j'ai assisté à la messe à Notre-Dame de Paris... le 2 ou le 3 janvier, c'était la messe dominicale, où je suis souvent allé à la messe dominicale de Notre-Dame de Paris, pas parce que je suis un catholique pratiquant, je dirais même pas que je suis un croyant par rapport à ce que professe l'Église catholique, mais aller à une messe à Notre-Dame de Paris, c'était revoir tous ces rites qui étaient accrochés dans le temps, remontant à la Rome antique et tout. Tu les voyais, puis je me souviens de la messe où je suis allé au début janvier 2019. Là, t'avais une soprano et un ténor. Et qui, de temps en temps, faisait des chants religieux. C'était d'un grandiose. Et les orgues, comprends-tu? Et t'avais effectivement une foule, c'est immense, Notre-Dame. Et je dirais que la foule était constituée à 75% de croyants, de gens là, qui étaient là parce qu'ils croyaient profondément. Les autres devaient être des touristes comme moi, mais t'étais comme... Tu devenais comme... tu perdais la voix. Tu perdais... C'était trop grand pour toi. T'es installé là. Moi, je me souviens, je suis allé plusieurs fois à des messes. Là. Tu finissais par être comme dans une bulle, dans une espèce de rêve, comprends-tu, tellement c'était grandiose.
Une chance qu'il y a eu les Aristochats pour la faire connaître.
Ah, mais les gens oublient aussi le bossu de Notre-Dame de Walt Disney, là.
Oui, oui. Hein? Ben, il y a une caricature aujourd'hui du bossu de Notre-Dame tel que Walt Disney le présentait. Là. C'est vrai qu'il l'a fait, je pense.
Oui. Bon. Alors, il y en a eu des films, il y en a eu des bon. Et s'il vous plaît, moi, ça fait tellement longtemps, je pense que je vais le relire. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, là, où on voit vraiment... C'est pas Plamondon, là. J'ai beaucoup aimé là, de ce qu'on a fait Plamondon, là, mais... C'est Victor Hugo, là, Phébus, et puis Quasimodo, et Esmeralda, et Frollo. Écoute, c'est nous, c'est un peu nous, ça. C'est nos chicanes internes, nos désirs, nos emportements. C'est Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Paris. Écoute, je regardais hier, il n'y a pas beaucoup de monuments religieux qui vont maintenir, qui vont faire la couverture quasi mur à mur de CNN et de Fox News et de tous les autres dans le monde entier. Il n'y a pas beaucoup de monuments qui vont nous amener à ça. Et je pense que la tristesse était vraiment universelle.
Merci beaucoup, Luc Lavoie.
Merci, Myriam.
Salut. À demain.
On revient dans quelques minutes.